Actu SF, les podcasts.
Eh bien, bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas combien vous êtes parce que les projecteurs sont un peu forts et donc je ne vois que le premier rang. Mais à vue de nez, ah oui, quand même, vous êtes plus nombreux que les gens qui étaient là tout à l'heure. Donc, on voit que le sujet de la du régime végétarien dans le futur est un, intéresse les gens. C'est déjà pas mal. Oui, car on parle beaucoup de régime végétarien dans à peu près tous les milieux. Dans le magazine professionnel Turiès Magazine, qui est réservé généralement quand même aux gens d'un certain niveau, des niveaux culinaires, plutôt des chefs, le rédacteur en chef, Yves Turiès, 2 étoiles et 2 cols bleu-blanc-rouge, rappelait qu'il y a 10 ans, avoir un menu végétarien dans un restaurant, c'était la risée de la profession, et que maintenant, c'est l'inverse, ne pas en avoir, c'est d'avoir complètement raté quelque chose. Donc là, on parle quand même d'un chef qui est à la base traiteur, et donc c'est le végétarien, c'est pas trop son cœur de métier. On voit aussi dans les statistiques, on en a parlé à la télévision il n'y a pas très longtemps, en 10 ans, les Français ont mangé 12% de viande en moins, et pas pour des pressions de lobby. Il y a un changement de société qui fait qu'on consomme moins de viande, on en consomme peut-être de la meilleure, ça j'ai pas de stats dessus. Et une étude récente aussi au niveau européen montre que 73% des Européens, ce qui fait quand même pas mal de monde, étaient prêts à réduire assez drastiquement leur consommation de viande. Donc là, on n'est pas en train de dire 73% veulent devenir végétariens, mais on a une tendance de fond que personne ne peut négliger, en tout cas au niveau européen. D'un autre côté, on a d'autres statistiques qui montrent que dans les pays émergents, on est plutôt dans une tendance totalement inverse et qu'on arriverait, si on suivait les courbes jusqu'au bout, à doubler les quantités de viande consommées dans le monde, ce qui consisterait à transformer à peu près 100% des zones cultivées en fourrage à bétail. Parce qu'à mon avis, on est tous d'accord, même si on aime la viande, c'est pas forcément un métier d'avenir. Alors, du coup, c'est une équation qui a l'air un petit peu insoluble, comme on aime bien réfléchir à tout ça en science-fiction. Hein, ça nous permet d'avoir des tas d'options différentes. Et puis, c'est également des opportunités pour la science et les techniques. Donc, pour parler de tout ça un peu plus en détail, nous avons 3 invités, si je compte bien. Oui. Donc, on va commencer par les écrivaines et autrice. Donc, Alex Evans, que vous voyez à mon extrême droite, qui est autrice de Sorcières associées, que vous pourrez aller assister à une de ses dédicaces demain à 13h30, si je ne me trompe pas. Hein, ça, pour ce soir, c'est un peu tard. On s'est dit que ça ne serait pas raisonnable. Ça ferait finir à minuit. Je vais commencer déjà par te demander quel est ton régime alimentaire. Là, on parle direct de nourriture. Tant pis pour le vent.
Je dirais que je suis dans la moyenne française. Je mange de tout. Et je pense que effectivement, au fur et à mesure des années, j'ai un petit peu changé mon régime, parce que quand j'étais jeune, je mangeais essentiellement de la viande avec un peu de légumes à côté. Comme tout le monde, j'ai regardé un petit peu tous les problèmes de santé, de cholestérol et autres, tous les problèmes d'additifs, et en plus j'ai eu des enfants. Donc je me suis dit que ce serait peut-être plus sain de varier un petit peu. En tant que mère de famille, je dirais que je pense que je suis dans la moyenne. Hein. Donc chez moi, on mange de la viande, on mange du poisson. Il y a des jours où on ne mange que des légumes, on boit du lait, on mange des crustacés. Et quand on va dans un autre pays, on mange ce que les gens mangent là-bas. Donc rien d'extraordinaire.
Bon, personne ne sort complètement outré, tout va bien. On va continuer les présentations. Donc, sur la gauche d'Alex, nous avons Licam, qui est autrice de... alors, si je te fais un problème de prononciation, tu me corriges.
Oui.
Hein, parce qu'il y a certains titres qui, des fois, ne sont pas simples. Alors, le dernier, c'est Cyberland. Ça va, je maîtrise.
Il n'y en a pas eu d'autres. C'est du Cyberland, c'est du cyberpunk.
Comme son nom l'indique.
Voilà.
Tu étais une des dernières à faire du cyberpunk, j'ai l'impression.
Cette année, oui. Mais c'est un thème qui va revenir.
Ah oui, non, mais on a discuté un peu de cyberpunk biologique hier, c'était très intéressant. Mais c'est hors sujet. Donc, sinon, tu
pas
es aussi...
Pas tout à fait, on verra.
Ah, bah tiens, très bien, ça m'arrange. Ensuite, donc, tu as aussi écrit Les Mastou, comment tu le prononces ?
Une série vampirique, ouais, Les Mastou.
Ah, bah tiens, ça, c'est pas trop végan, ça, les
pas
vampires.
Pas du tout.
Hein.
Mais en même temps.
Ouais, c'est... Et Azulon, prix Bob Moran 2016, quand même. Félicitations.
Merci.
Je l'avais raté, celui-là. Et tu es aussi coach en créativité.
Oui. Je travaille principalement avec des scientifiques.
Donc, et, à part le vampirisme, quelle est ta tendance alimentaire ?
Personnelle ?
Oui.
Je suis omnivore. C'est mal. Mais j'ai beaucoup changé mon régime alimentaire et ma façon de consommer. Je consomme, on va dire, à 70% local. J'ai la chance de vivre à la campagne. Ouais. Donc, je mange bio, local. Après, la part de viande a beaucoup diminué.
Tu l'as remplacé par quoi ?
Je l'ai remplacé par des légumes, par des comment on appelle ça ? Des fruits secs, ouais. Des légumes secs. Disons que j'ai un peu réfléchi parce que c'est compliqué quand même quand on est omnivore de comprendre comment manger pour manger équilibré.
Oui, il y a une question apprentissage.
Oui.
Si on n'a pas appris, c'est bon, on a toujours Internet et des livres, etc. Mais il y a une période d'acclimatation qui est un petit peu délicate. Mais
quelques recherches à faire.
Voilà, c'est pas non plus dramatique, mais. Et ensuite, nous avons David Birgécotte qui ici. Présent. Alors, qui n'est pas écrivain pour l'instant ? Ça viendra peut-être, on ne sait jamais.
Peut-être.
Voilà. Qui est par contre entrepreneur-inventeur et qui a une grande affection pour la spiruline, hein, pour des raisons alimentaires et professionnelles. Vu que, je spoil un peu, tu travailles en ce moment sur une machine à cultiver la spiruline, une machine... Petite taille, quoi.
C'est ça, enfin, sur un système pour produire de la spiruline. J'en parlerai peut-être plus tard de ce que c'est que la spiruline. Donc, pour produire de la spiruline toute l'année, n'importe où.
En fait, la spiruline, juste pour spoiler, c'est le machin vert que vous devriez voir sur les écrans. Vous le voyez ?
Alors là, c'est en poudre.
Voilà, donc c'est nickel. Ça se présente aussi sous d'autres formats.
En brindille.
On verra par la suite... par contre, bon, je ne suis pas très fort en diaporama finalement. Et ça, oui, je suis en train de cafouiller, c'est pas grave. Je vous montrerai ça plus tard. Donc, bref, par contre, quel est toi ton régime alimentaire ?
Alors, j'étais omnivore pendant la majorité de ma vie. Et maintenant, je suis plutôt végétarien. C'est-à-dire plutôt végétarien. Je ne mange pas de viande quand je suis chez moi ou quoi. La plupart du temps, j'en mange pas. J'en mange peut-être une fois tous les mois ou tous les deux mois. Voilà.
D'accord, donc tu es
carnivore. Et je continue à manger des œufs et du lait.
Juste occasionnel, d'accord.
Ouais.
Bon, bah, on est tous à faire notre mea culpa, je vais le faire aussi un petit peu. Donc moi, j'ai divisé par 4 la quantité de viande en 10 ans. J'avoue que c'était notamment en raison de la qualité de la viande. Hein. Et comme par la suite, j'ai découvert que les substituts, enfin la bonne qualité c'était bien et les substituts c'était pas mal non plus. On est resté là-dedans. On dialoguera à ce sujet par la suite. Et alors, par contre, votre conception. des tendances dont j'ai parlé. On a des tendances contradictoires avec l'Europe qui a l'air de freiner très fort sur la viande. Par contre, le reste du monde qui a l'air de pousser très fort pour en manger. Qu'est-ce que ça vous évoque au niveau déjà science-fiction ou même présent
Alors, personnellement, je reste très réaliste, c'est-à-dire très pessimiste. Je pense qu'il va y avoir un moment où le prix de la viande va monter, hein, y compris dans les pays comme la Chine. Ça va être comme d'habitude, c'est-à-dire que les gens qui auront les moyens d'acheter de la viande ou de bien se nourrir, vont continuer à acheter de la viande. Et les gens qui n'en auront pas les moyens, ils en achèteront pas. De toute façon, le fait que nous, en Europe, on puisse se permettre de manger de la viande tous les jours, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Pour monsieur tout le monde, je dirais que ça remonte aux années 50. Hein. Avant, on va partir du Moyen-Âge, vous aviez une espèce de gros brouet dans lequel vous mettiez tout ce que vous pouviez trouver de mangeable, ce qui était en général des légumes, et quand de temps en temps vous arriviez à trouver de la viande ou un morceau de lard ou un morceau de jambon, vous l'ajoutiez pour parfumer. Et c'était comme ça sur toute l'Europe. Sauf dans des pays où vous mangiez beaucoup, beaucoup de poissons salés. C'est marrant parce qu'on parle beaucoup de végétarianisme, de végan, de végétarien. On n'a pas encore très bien classifié qu'est-ce que c'était. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de poissons ou de choses peut-être un tout petit peu plus exotiques comme les sauterelles. En France, on mange bien des escargots. Hein, donc, ce n'est pas si exotique que ça. Donc l'autre possibilité, à mon sens, dans une perspective de science-fiction, ce serait de développer des viandes qu'on n'a pas l'habitude de manger actuellement. Peut-être pas du bœuf, peut-être pas du poulet. Si vous allez en Afrique du Sud, dans un supermarché, vous trouvez très facilement du steak d'autruche, ça s'élève très bien. L'autruche, c'est une grosse bestiole, donc ça fournit beaucoup de viande. Ça fournit également beaucoup d'œufs. Un œuf d'autruche, c'est à peu près 36 œufs de poule. Donc il faudrait peut-être considérer également ces options-là, en sachant que ça obligera tout le monde, que ce soit les Européens ou le reste du monde. On est quand même une minorité en Europe. D'abandonner nos habitudes traditionnelles, culturelles, et de passer totalement à autre chose.
Alors, toujours dans l'optique de la science-fiction, il y a différentes façons d'envisager l'avenir de la viande. Dans un premier sens, il y a des choses qui se font déjà, qui est la culture d'arômes via bactéries. C'est-à-dire que c'est les bactéries qui sécrètent des protéines, des toxines, qui ont l'arôme framboise, fraise. Et donc, on pourrait faire la viande. Donc, on pourrait avoir des substituts qui ont le goût de viande. Si on va encore plus loin, avec la cybernétique et les implants, on pourrait manger des substituts. Et l'implant cérébral pourrait nous donner l'impression qu'on mange de la viande. On peut aller jusque-là.
Ah oui, ça, on ne l'avait jamais fait, celle-là. C'est pas mal. De la viande, mais juste virtuelle.
Juste virtuelle, mentale. Simplement au niveau du goût.
Du coup, là, on est vraiment dans l'économie de moyens.
C'est comme l'orgasme, hein, c'est la même idée.
Oui.
L'orgasme gustatif. Par contre, là, on parlait d'insectes. Sur ce même plateau, l'an dernier, j'avais justement fait manger au public des grillons. Cette année, je n'en ai pas amené, désolé. Hein et on a eu une espèce de petite mode du biscuit apéritif à 6 pattes. Jamais 8, hein, tiens, maintenant que j'y pense, on est resté sur les 6 pattes. Hein. Et il faudrait essayer le coup des araignées en biscuit apéritif. Qu'est-ce que ça vous évoque là, on est plus. On n'est pas dans la viande, mais on n'est vraiment pas dans le végétarien. Ou pour vous, vous feriez des exceptions?
Je pense que les insectes, ça peut passer dans le régime végétarien. Parce que c'est pas la même... Après, ça dépend des gens, j'imagine. Oui. Mais c'est pas la même...
Il y en a qui se révoltent dans le public, mon Dieu.
C'est pas la même psychologie, le même type de conscience pour l'insecte ou la vache, par exemple. Mais c'est discutable et il faut discuter. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bon substitut, puisque si on mange de la viande, généralement, c'est pour les protéines, et on peut les avoir très bien dans les insectes pour une moindre quantité. Oui. Donc oui, c'est pourquoi oui, pas.
Quitte à faire des protéines, hier nous parlions de... Bon, c'est pas on a tous mangé, je suis désolé, hein, mais de gelée de viande faite à l'imprimante 3D. Alors, pour ceux qui pensent que c'est de la science-fiction, il y a Michigan Meat Institute qui essaye d'en fabriquer de manière industrielle. Donc, c'est pas impossible que ça sorte en barquette dans quelques années. Là, on est dans la culture de protéines animales. Là donc, on ne fait pas de mal, a priori, aux animaux, mais on n'est pas dans le végétarien. Alors là, on devient schizophrène, on fait quoi?
Les steaks...
Là, on en est à la gelée de viande, hein, parce que la viande... Bon, juste pour donner un aperçu, si vous assemblez des protéines animales, ça ne fait pas de la viande, ça fait de la gelée, ça n'a pas de structure. Donc, au niveau gustatif, c'est un peu comme manger du flan. C'est moyen. Alors, pour fabriquer de la vraie viande avec un même niveau d'apport nutritif, il faudrait idéalement qu'en plus ça pousse dans un liquide très riche en bactéries pour les raisons que tu as données, mais pas que, parce que certains acides aminés, merci, ne sont pas liés à la protéine animale, mais au fait que, enfin, la flore intestinale de la bête. Donc, il faut faire une flore intestinale... virtuel qui nourrit la gelée en question. Et ensuite, lui donner des fibres, ça, pour l'instant, c'est pas faire. Donc, c'est pas vraiment de la viande, c'est de la protéine de culture, mais animale. Alors moi, j'avoue que je saurais pas comment classer ça. Eh bien, on va peut-être demander au public, ceux qui considèrent que ça serait mangeable en tant que végétarien, lèvent la main. Pas un mal. Ah bah, si en fait c'est fait uniquement à partir de cultures qui nécessitent zéro apport animal, comme ça commence à pouvoir se faire en laboratoire, c'est vraiment de la culture. On n'est pas en train de faire de la culture, de récupérer des cellules d'un animal pour faire de la gelée. Là, on part d'une cellule souche, on la cultive, on en fait plein et on fait de la viande. Donc à partir d'une cellule. Ah, on parlera de ça après, d'accord? Parce que là, vous n'avez pas de micro, donc c'est moi qui gagne. Ah. Mais justement, réfléchissez deux secondes à la question, ça pourrait être vachement intéressant d'ici un quart d'heure, 20 minutes. OK? Vous me les laissez? Bon, merci. Donc, et ceux qui étaient parfaitement contre, là dites donc, vous perdez, les gars. Allez, levez plus haut les mains, parce que peut-être que je ne vois pas. Ah, voilà, il y avait des timides. Ouais, ça se vaut. Et les sans opinion, du coup, c'est les autres, je suppose. Très bien. Bon, ben bref, c'est pas tranché. Alors par contre, là, revenons au végétal, hein, qui n'est pas de problème. Donc, on parlait de substituts végétaux à la viande. Donc, on était plutôt sur des haricots.
Il y a tout ce qui est à base de soja.
Oui. Alors, c'est vrai que j'ai une recette de chili con carne, sin carne, qui est à base de soja et qui passe comme une lettre à la poste. D'ailleurs, j'ai arrêté de mettre de la viande hachée dans mon chili. Donc, finalement, je vais finir par être végétarien avant ma mort, hein, attention. Et toi, Alex?
D'abord, je pense qu'on mange de toute façon trop de protéines. En tout cas, moi, personnellement, je mangeais beaucoup trop de protéines par rapport à ce dont j'avais besoin. Et non, j'ai jamais cherché à faire des substituts de viande.
T'as juste réduit ?
J'ai juste réduit. Et je trouve que c'est un petit peu, comment dirais-je, hypocrite d'essayer de remplacer la viande par le goût de la fiente. C'est un petit peu comme les gens qui autrefois disaient « Oui, je fume, mais avec un filtre », au lieu d'arrêter de fumer, tout simplement.
Ah oui.
Vous passez tout simplement à un autre type d'alimentation, point, si vous ne voulez pas manger de viande.
Oui, je pense que tu marques un point, là. Oui, tout à fait. Alors par contre, on a aussi, pour ceux qui seraient inquiets à l'idée, parce que J'ai souvent discuté de ça assez ouvert. Hein. Je suis pas un, vu que moi, je mange de temps en temps de la viande, je ne suis pas un radical du végétarien. Mais j'ai discuté avec des gens qui étaient un peu accro au steak. Je vais souvent en Espagne où la proportion de protéines animales est gigantesque par rapport à la France. Alors, normalement, vous passez 4 semaines chez ma belle-mère, vous ne pouvez plus manger de viande pendant 3 mois. Hein, vous en avez ras-le-bol. Donc, j'ai discuté avec eux assez régulièrement de ce genre de ce genre de choses et à chaque fois ils me sortent oui mais et l'apport en protéines et puis dans la viande il y a des sels minéraux qui blablabla donc qu'est-ce que je pourrais leur répondre David
de manger de la spiruline
et la transition est impeccable. Alors je reviens sur les magnifiques photos de spiruline, vous les voyez bien, vous voyez comme c'est beau là. Bon, normalement, si vous l'achetez, ça ressemble plutôt à ça, et dedans, à soit à ça, soit à ça.
Généralement, ça se vend déshydraté, oui, sous forme de poudre ou de petits comprimés ou autres.
Tu peux
expliquer peut-être ce que c'est.
Oui, parce que oui. Bon, je suppose que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont calés,
savoir,
mais on ne sait jamais.
Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui connaissent la spiruline de nom ou qui. Ah, ouais, quand même.
Bon, et on va, c'est moi le candide, on va dire, j'y connais rien. Vas-y, raconte-moi, s'il te plaît.
Alors, la spiruline, c'est une micro-algue. On dit micro-algue, mais c'est une cyanobactérie qui a à peu près 3 milliards d'années, à peu près, à quelques jours, c'est un mercredi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, je me suis perdu en disant des conneries.
Non, mais ta blague était tellement bonne, je comprends.
Non, mais, du coup, c'est une cyanobactérie qui est comestible. Et qui est extrêmement riche en protéines, en fer, en oligo-éléments, en vitamines, il y a même de la vitamine B12, on ne sait pas si elle est tout à fait absorbable, mais en tout cas, il y en a. Antioxydants, ça lutte contre la fatigue, enfin, c'est une mine d'or de
ah oui, alors, c'est vrai que si on regarde un peu sur Internet, on a l'impression que c'est... Enfin, on tombe sur des superlatifs du genre l'aliment du sportif, le truc, le machin. À la fin,
alors,
on n'y croit plus quand même.
Si tu veux un vrai argument, il y a l'OMS qui considère ça comme le meilleur aliment pour le 21e siècle.
Alors, le meilleur aliment pour le 21e siècle, ça peut donner ça.
Ça peut donner ça. Ça, c'est la forme fraîche.
Alors, ça peut donner ça.
Et ça, c'est...
Alors ça, vous boulangerie Kaiser, hein, tout le monde connaît, c'est un des plus grandes chaînes de boulangerie. Donc c'est leur pain la spiruline qui date de, voilà, il y a 2 mois, hein, donc on et qui n'est pas mauvais, un petit goût végétal en plus. Mais, donc je vous conseille. Alors la quantité de spiruline là-dedans, j'en sais rien. D'ailleurs, quelle quantité est recommandée
Ce qui est recommandé, alors du coup on parle en sec, c'est à peu près 3 à 5 grammes par jour. Donc c'est vraiment très peu. C'est pour ça que c'est considéré comme un complément alimentaire. C'est pas ton repas, tu manges pas que ça. Tu vas manger normalement. Et en plus, pour être sûr d'avoir tes apports journaliers, prendre 3 à 5 grammes de spiruline, ça fait le travail.
D'accord, donc je peux dire à ma belle-mère, mais si, tu manges du riz blanc avec un peu de spiruline dessus et tu m'embêtes pas.
Oui, ça va pas être très bon, mais oui.
Ah, puis elle va
m'en juste une question, ça a quel goût ?
Alors justement, pour ça que je disais ça pourrait être très bon, c'est que... Alors sec, ça a pas vraiment de goût. Par contre, ça a une odeur qui peut être assez forte. Ça dépend de la façon dont ça a été séché, sans rentrer dans les trop détails techniques. Mais si c'est séché à plus de 40 degrés, ça perd en qualité et en plus, ça prend une odeur très forte. Et si c'est
une odeur d'algue ?
Comment ?
C'est une odeur d'algue ou c'est une odeur de quoi ?
En fait, c'est une cyanobactérie, donc ça a une odeur de...
De cyanobactérie.
Ouais. C'est...
Bon, ok.
C'est pas... Ça a une odeur... Je sais pas trop.
Bon, quelle... parce que moi, cyanobactérie, c'est bacille pyocyanique et je... J'aurais un peu de mal. Je dois...
Alors, pour rassurer les gens, les bactéries, on en mange plein.
Oui, c'est pas un problème, hein, toute une bactérie.
Quand vous faites vous achetez du pain au levain, il y a je ne sais combien de milliards de bactéries dedans. Quand c'est frais, alors j'en ai plein mon frigo vu que je fais mon pain comme un grand 3 fois par semaine. J'ai donc une culture de bactéries permanente dans le frigo. Ça sent bon la bière, c'est un vrai bonheur.
Oui, c'est ça, et la bière, voilà. Et les levures.
C'est des levures, ça par contre, c'est pas
non,
des
non.
bactéries.
Ah non, ah, on fera une table ronde là-dessus un jour, mais non. Non, non, c'est des bactéries. La levure est un méchant champignon qui mange mes gentilles bactéries. Ça, c'est pour le petit aparté. Donc là, c'est des gentilles bactéries
coup,
qui sentent peut-être la bière.
Qui se mangent bien, sentent pas très bon si elles sont séchées trop fort. Mais mélangé dans un yaourt, ça passe très bien, ou mélangé dans une salade ou quoi. C'est juste,
Et donc, ouais. Toi, ton grand centre d'intérêt en ce moment, donc, c'est la culture de la spiruline,
j'essaye
et pas que pour ton usage personnel.
Alors oui, enfin, j'essaye de cultiver donc la spiruline. Là, ce qu'on peut voir, c'est que l'eau est verte parce que la spiruline est une microalgue, donc elle est, enfin, micro, c'est une bactérie, donc il y en a partout dans l'eau. Mais on voit qu'il y en a un peu plus en haut à gauche. Là, il y a une traînée noire parce qu'elle, si on la laisse sans agitation, elle remonte à la surface. Donc là, j'ai un tout petit peu bougé la bouteille et ça s'est commencé à redescendre dans l'eau. Donc là, il y en a des milliards et des milliards. C'est énorme. Et du coup, l'autre chose que j'essaye de faire, c'est donc de la cultiver dans des réacteurs. On peut voir là. Ça, c'est mon prototype que je suis en train de développer. Et ça permettrait, enfin, ça permet de pouvoir ensuite la récolter directement en ville, là où ça va être consommé, et de la manger fraîche. Donc, il y avait une photo à un moment avec une tomate. Je ne sais pas si on peut la retrouver. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la spiruline, mais qui est fraîche. Donc, quand elle est fraîche, elle n'a aucune odeur et elle n'a aucun goût. Par contre, elle a un effet exhausteur de goût et elle a une texture qui est tartinable, crémeuse. Donc ça n'a rien à voir avec la forme sèche. Et l'objectif, ce serait d'essayer d'en faire un vrai aliment. Mais il y a des contraintes techniques, genre ça se conserve que 48 heures au frigo. Donc comment on fait
Ah oui, donc d'où l'intérêt d'avoir ça chez soi
Alors soit chez soi, soit une ferme urbaine et on livre facilement les gens. Enfin, il y a encore un, il faut que je cherche, quoi, je travaille là-dessus.
Voilà, c'est les inventeurs. Donc Trifon Tournesol.
Voilà, c'est ça. Donc je cherche des moyens de démocratiser ça.
Et alors là, c'est à quel stade? Parce que là, vu d'ici, on dirait une espèce de gelée. Et j'avoue
alors,
que c'est un peu...
Là, c'est juste de l'eau. Enfin, c'est l'eau dans laquelle vit la spiruline. Et elle est agitée par une pompe. Là, on voit le câble rouge. Le câble rouge, c'est le câble de la pompe. Enfin, il y en a un rouge et un noir, mais on voit surtout le rouge. Et la pompe agite l'eau. Et c'est pour ça qu'on voit un mouvement dans le...
Et donc, du coup, est-ce que... Enfin, il faut oxygéner, ça produit des gaz.
Alors, ça fait de la photosynthèse, comme une plante. Donc, ça consomme du CO2 et ça rejette de l'oxygène. En tout cas, quand il y a de la lumière. La nuit, ça fait aussi de la respiration,
oui,
comme une plante, où ça consomme.
Oui, ça ressort voilà. Pendant la nuit. Ouais.
Mais ça consomme... Enfin, le bilan général de la spiruline, c'est que ça consomme du CO2.
Oui.
Du coup, il faut une agitation, tout simplement, parce que si on la laisse dans l'eau sans rien faire, elle monte à la surface, et s'il y a trop de lumière, elle peut genre brûler parce qu'il y a trop de lumière. Donc, il faut l'agiter pour déjà qu'il y en ait qui... Bah, que toutes puissent aller un moment en haut, pas qu'elles soient cachées les unes par les autres, et qu'il y ait donc, bah, que ce soit homogène, quoi, qu'il y en ait qui ait de la lumière, puis qu'il soit dans le noir, puis qu'il y ait de la lumière... Et puis qu'elles aient accès au CO2 atmosphérique.
D'accord. Et niveau nutriments, ça a besoin de quoi pour proliférer ?
Eh ben, ça a besoin de donc pour faire des protéines, ça a besoin d'azote. Donc comme n'importe quelle plante, hein, mais plus que les autres, puisque c'est beaucoup de protéines. Phosphore, magnésium, phosphate, tous les trucs de base de vivant.
Tu mets de l'engrais pour plantes ? Tu fais comment là ?
Alors je fais mon propre engrais. Mais en effet, pour l'instant, c'est un engrais chimique à partir de roches minérales, enfin de minéraux, quoi, comme un engrais classique. Mais à terme, il y a d'autres façons de faire. C'est juste que c'est pas encore trop développé parce que la spiruline, c'est assez récent comme aliment. Et quand on l'a découvert, quand on a commencé à la cultiver, c'est dans les années 60. Et du coup, à l'époque, bah, c'est complètement engrais chimique, il y a que ça. Donc du coup, on a appris à la cultiver avec les engrais chimiques. Du coup, maintenant, il faut changer, il faut se mettre en mode OK, comment on fait ça avec du purin d'ortie ou je ne sais quel truc permaculture. Mais pour l'instant, c'est que de la recherche et on n'est pas encore au point.
Juste pour me rassurer, si j'écrème le dessus pour me faire ma tartine,
oui.
À quel niveau de dégradation de l'engrais je peux m'attendre? Parce que ce n'est pas que je n'aime pas le purin d'ortie. Mais...
Bah, normalement, la spiruline, quand on la récolte, en fait, là, elle vit dans l'eau. Donc il y en a une certaine. Il y en a partout dans l'eau. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on la pompe et on la fait passer dans un filtre. Et donc l'eau retourne dans le bassin pour ne pas la gâcher, ça ne sert à rien de jeter l'eau. Et on récupère donc de la spiruline sur le filtre. Ensuite, on enlève un maximum d'eau, on presse, on aspire, on fait son on peut pour enlever le maximum d'eau. Et c'est cette spiruline-là que soit on consomme fraîche, directement comme ça, soit on sèche. Mais il n'y a quasiment plus d'engrais. Enfin, il n'y a plus de. Non, c'était dans l'eau, l'eau n'est plus là. Normalement, il y a pas l'eau. La seule eau qui reste, c'est l'eau qui est dans les cellules, mais elle n'est pas pleine d'engrais vu que la cellule les mange l'engrais. Enfin,
oui.
La dégrade.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Donc non, il n'y a pas de risque d'engrais. Enfin, c'est rincé, il n'y a pas de.
dernière question technique, c'est le côté ingénieur qui ressort là. Il y a des prédateurs du. Tu peux avoir une pollution de ton bac. Il y a des bactéries qui peuvent être antagonistes.
C'est une bonne question. En fait, la spiruline, une des seules raisons pour laquelle on sait la cultiver. Enfin, en microalgues, il y en a que 3 qu'on sait cultiver en manière industrielle comme ça. Enfin, industrielle, qu'on sait cultiver dans des grands bassins ou quoi. Et on sait les cultiver seulement parce qu'elles sont des extrémophiles et qu'elles survivent que dans un milieu où il n'y a que elles qui peuvent survivre. Sinon, en effet, il y aurait plein de mauvaises herbes, entre guillemets. Là, la spiruline vit dans une eau qui a un pH de plus de 10 et une salinité qui est genre 5 à 15 grammes par litre. Donc, il n'y a rien qui peut vivre dans une eau comme ça. Donc, s'il y a une contamination, au bout de 2 heures, elle est morte. Il n'y a aucun moyen de prolifération. Donc, la spiruline est tranquille toute seule dans son eau.
Zut, j'ai une autre question. Désolé, hein, je vous en pique peut-être un. Mais du coup, tu atteins ton pH 10 comment là ?
Avec du bicarbonate de soude.
Oh, c'est magique. Et c'est le truc de grand-mère qui marche partout.
En plus, elle le mange parce que le bicarbonate, c'est du carbone. Donc,
en plus,
voilà.
Non, c'est merveilleux. J'adore le bicarbonate. Bon, qu'est-ce que ça vous évoque, mesdames ? Parce que là, on est quand même. On pourrait miniaturiser le concept, enfin je sais pas, aller sur Mars.
Carrément, la NASA et l'ESA l'utilisent déjà.
Voilà.
Alors là, je sais qu'il y a quelques mois, d'un dernier cargo qui allait à la station spatiale, ils ont emmené justement des microalgues. Alors je sais pas si c'est de la spiruline ou si c'est une autre microalgue. Ça peut être la Chlorella ou la Dunadelia, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin le nom, voilà. Pour essayer de le cultiver dans l'espace, parce que justement, ça prend très peu de place et ça donne un très riche aliment. Donc, pour cultiver dans l'espace, c'est plutôt pratique.
Oui, j'avais une question. Pourquoi les recherches ont commencé dans les années 60 ? C'était dans quel cadre ?
La colonisation, en fait. Non, mais en fait, la spiruline vit dans les zones très chaudes. Plutôt au niveau de l'équateur, donc sur tous les continents, mais au niveau de l'équateur.
Ah oui, j'ai une photo où on voit. Ah, c'est pas ça, excusez-moi. Ah, je me spoil, c'est honteux. Cratère en Inde.
Donc celui-là est en Inde, et donc c'est un lac naturel de spiruline. La spiruline vit naturellement là-dedans. Ça vit dans les lacs volcaniques où justement le pH est élevé, et il y a beaucoup de sel, et il y a beaucoup de roches minérales qu'elle peut manger.
Et c'était pas du tout dans le cadre pour lutter contre la faim dans le monde. C'est dans ce cadre-là quand même.
Au début, les humains la consomment depuis très longtemps, juste en la récoltant dans les zones tempérées, enfin les zones équatoriales. Donc au Tchad, en Inde aussi.
Mexique.
Et Mexique. Mexique, les Aztèques en mangeaient. Et au Tchad, ils en mangent encore. Ils la récoltent directement dans le lac et ils la font sécher sous forme de galette. Et voilà. Et du coup, les Européens ont découvert ça. Ils ont fait, mais c'est quoi ce truc vert que les gens y mangent ? Ils en ont récupéré, ils en ont ramené, ils ont analysé ça, ils ont essayé de le cultiver. Et depuis, on fait ça de manière commerciale.
Et donc, tu disais par contre que c'était utilisé pour lutter contre la faim dans le monde.
Ouais,
tu peux détailler
un peu. Utilisé pour la malnutrition, pas contre la malnutrition. Il y a une association, Antenna Technologies, qui justement forme dans les villages africains, etc., pour faire en sorte que les gens puissent la produire eux-mêmes et ne soient pas dépendants des autres pays ou puissent être autonomes en alimentation.
Et en apport nutritionnel, on a une idée
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a 60% de protéines. Donc quand je dis là, les pourcentages, c'est en matière sèche.
D'accord.
Donc pour la spiruline fraîche, il faut diviser par la quantité d'eau selon si elle est plus ou moins pressée ou pas. Mais en matière sèche, c'est 60% de protéines minimum. Après, ça dépend évidemment de la façon dont elle était cultivée, les engrais qu'on lui a donnés, ça dépend. Mais à peu près 60% de protéines, beaucoup de fer, je ne pourrais pas dire le pourcentage de fer, mais l'apport en fer est conséquent. Et ensuite, tout plein d'oligo-éléments et de vitamines en apport journalier qui sont pour les 5 grammes de spiruline par jour. Voilà.
Il faut combien de kilos de viande pour remplacer 1 gramme de spiruline ? En termes d'apport nutritionnel, on a une idée ?
Quelqu'un, une calculatrice ?
Oui, c'est plutôt ça. parce que du
ça
coup,
fait beaucoup.
Si on dit 5 grammes par jour à 60% de protéines, on est à genre 3 grammes de protéines, pour tes 5 grammes. 3 grammes de protéines, je pense qu'on les dépasse largement en mangeant un steak. un steak 200 grammes, je sais pas combien il y a de protéines dedans.
Je passe.
Mais il y en a sûrement plus que 3 grammes.
Juste une question, quel est le prix de revient alors d'un, on va dire d'un kilo de spiruline pois sec hein?
Le prix de revient, c'est le prix de fabrication, c'est le prix d'achat.
Le prix de fabrication.
Et ben ça dépend de la technique qui est utilisée. Dans les techniques classiques, c'est les bassins, c'est ce qu'on appelle open raceway pond, c'est des bassins assez plats qui font que 25 cm de profondeur, parce qu'il faut que la lumière passe. Et c'est très opaque, comme on peut voir le lac, il est complètement vert, la lumière passe pas. Donc du coup, 25 cm de profondeur maximum, parce que de toute façon, au bout de quelques 5 cm, il n'y a plus de lumière. Donc c'est des bassins, on les agite quand même pour justement que toute la spiruline ne soit pas au-dessus ou en dessous ou quoi. Et donc ça coûte moins cher que ce que je suis en train de développer, qui utilise de l'énergie, lumière, chaleur, pour avoir une meilleure productivité, mais au coût énergétique plus élevé également. Donc ça dépend des techniques, je ne pourrais pas dire le prix de revient, c'est le prix d'achat du consommateur.
Oui, le prix d'achat à défaut. Ouais.
Qui est de à peu près, ça dépend des variantes, mais c'est entre 100 et 150 euros le kilo, sachant qu'on en mange 5 grammes par jour, donc le kilo, ça fait quand même quelques mois. Mais voilà, ça reste plus cher que la viande.
Et bon, comme on disait, c'est un complément. Pour l'instant, en tout cas, c'est un complément alimentaire. On peut
pour
pas passer ouais, d'une base
c'est
calorique.
C'est ça. Pour l'instant, c'est un complément alimentaire. On en mange 3 à 5 grammes par jour. Mais même si on en mange 5 grammes, enfin, j'ai des retours pas utilisateurs parce que c'est pas la mienne que j'ai donnée, mais j'ai quand même discuté avec des gens qui en consomment régulièrement. Enfin, même moi, j'en consomme, mais je voulais d'autres avis. Et à 5 grammes par jour, la personne qui n'en a jamais mangé, en mange 5 grammes par jour, au bout d'une semaine, elle se sent super en forme, presque trop. Il m'a dit, il l'a baissé, il était à 5 grammes, il est redescendu à 3 grammes, c'était trop pour lui. Donc finalement, même seulement 5 grammes, ça donne un bon coup de boost, mais ça ne fait pas l'apport en protéines d'un steak. Bon.
Lex, tu avais une question ?
Oui, non, parce que j'étais en train de regarder un petit peu qu'est-ce qui pouvait remplacer la viande en production de masse. Donc je me demandais si la spiruline pouvait faire l'affaire. Pour l'instant, non, manifestement.
La spiruline a l'intérêt aussi qu'elle prend beaucoup moins de place que le.
Mais comme prix de. Le coût de production est quand même assez élevé.
Si on laisse juste faire le marché, oui, la viande sera moins chère que la spiruline. Mais en vrai, c'est quand même mieux. Enfin, c'est mieux. Ce serait plus intéressant de manger de la spiruline d'un point de vue écologique et d'un point de vue santé, puisque ça prend beaucoup moins de place, ça demande très peu d'eau par rapport à une vache. Par rapport à une vache qui consomme des centaines de milliers de litres, des milliers de litres. La spiruline, donc on recycle son eau, il n'y a quasiment pas de changement d'eau. Ça prend très peu de place par rapport à la concentration en nutriments qu'il y a dans un seul gramme de spiruline. Donc oui, à terme, ça peut nourrir énormément de gens. C'est juste qu'il faut développer la technologie, il faut peut-être une aide de législation, incentive pour développer la spiruline et baisser la viande. Mais si on laisse juste faire le prix du marché, la viande sera moins chère.
Oui, mais par
pour l'instant.
Oui, par contre, toi, tu te positionnes justement dans de la machine. De production, donc je suppose que si la production se développe, on peut espérer également une grosse chute du prix, donc l'un dans l'autre.
La plupart des coûts dans la production de la spiruline, c'est l'investissement initial pour fabriquer soit les bassins, soit les machines, soit les photobioréacteurs, qui sont les machines de production intensive, soit les faux lacs, en fait, c'est des faux lacs. Qui sont agités et qui ont une productivité moins élevée, mais qui coûtent moins cher à la fabrication, mais qui demandent un peu plus de place aussi, mais pas tant de place que ça. Donc c'est le coût de fabrication qui coûte cher, et ensuite c'est le coût de main-d'œuvre, parce que même si ça pousse tout seul, après il faut le récolter. Et la récolte, faut pomper la spiruline, faut la passer dans un pressoir, ensuite la travailler pour en faire des petites brindilles ou en faire des gélules ou en faire de la poudre.
Ou des petites galettes vertes.
Ou des petites galettes vertes.
Marquées soleil vert dessus.
C'est ça.
D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a une table ronde soleil vert demain, 19h30, je crois, animée par moi-même, où on parlera de nouveau de nourriture végétarienne, je vous rassure. On passe pas en mode cannibale. Mais du coup, il y a un espèce de complément d'information demain pour. avec des ingénieurs de l'INSERM qui sont un peu plus spécialisés dans le haricot pour ceux qui n'ont pas trop envie de manger de spiruline. Voilà. Est-ce que tu as déjà pensé à cultiver d'autres choses ou tu es vraiment pour l'instant là-dessus
Pour l'instant, d'un point de vue professionnel, je suis là-dessus. Après, j'ai un jardin à la campagne.
Ah bon, j'ai eu peur que tu me dises. D'un point de vue ludique, j'ai des petites plantes vertes qui poussent.
Aussi, mais oh, non mais
ça se mange pas, ça.
Non, ça se mange pas. mais du coup, non. D'un point de vue pro, c'est plutôt la spiruline.
D'accord.
Après, il y a d'autres micro-algues qui sont intéressantes. Là, les deux autres dont je parlais, elles sont aussi intéressantes. C'est juste qu'elles sont plus compliquées encore à produire.
Alors,
déjà que c'est chiant à produire, mais alors les autres sont encore plus chiants.
Et dans les autres créatures du monde vivant, alors j'en ai une jolie que j'aime beaucoup. Est-ce qu'elle... Alors ça, c'est un lichen. C'est un lichen comestible. Hein. Si vous allez dans certains restaurants, on va vous la servir. C'est donc un mélange d'algues et de bactéries. Celle-là est peut-être plus connue.
Le lichen, c'est un mélange de
c'est une symbiose.
Champignons
et champignons, pardon.
Champignons et cyanobactéries. Ouais,
désolé, ma langue est fourchée. Donc, est-ce que tu as déjà entendu parler de culture? Parce que pour l'instant, dans les nouveaux restaurations, on en reste dans le resto très haut de gamme.
À mon avis, oui.
Parce que c'est extrêmement compliqué à préparer pour l'instant.
Faut est-ce que ça se cultive déjà? Est-ce que parce que ça se récolte, ok.
Ça se récolte. Mais justement, est-ce que tu as entendu parler de...
Je ne sais pas du tout.
Donc, mes amis auteurs, ça ne vous dit rien? Dans vos rêves les plus fous, peut-être, vous avez cultivé des trucs bizarres?
Cultiver du lichen?
Oui, cultiver du lichen, oui, pourquoi pas. Ça a l'air en tout cas appétissant.
Ouais, celui-là, je trouve sympa. Enfin, surtout celui-là, il fait envie, je trouve.
Il me semble que les lichens sont extrêmement sensibles à la pollution de l'air. Donc, ils ne sont pas du tout évidents à cultiver.
C'est bien.
Je ne suis pas sûr que ce soit la nourriture de l'avenir, du coup. C'est...
Bon, alors, j'ai un autre candidat, attendez voir. Alors, ça, ce n'est pas un œuf brouillé. Il est très beau. Vous reconnaissez? Il y en a qui reconnaissent? C'est le même, là? Protiste, oui, c'est ça, mais Myxomycète, bravo, monsieur a gagné, on en parlera après. Et donc, ce truc, il n'y a pas si longtemps, on ne savait pas où le classer, donc on lui a presque créé une catégorie pour le mettre. Et ça a le mérite de repousser quand on le coupe. Donc, si vous le coupez en deux, c'est des protéines plus ou moins animales. Vous coupez en deux, ça repousse. Poum. Et ça convertit en fait des déchets de sous-bois en protéines animales. Ça mange à peu près n'importe quoi. Les Aztèques, je crois, ils mangeaient vraiment de tout, ces gens-là. Hein, parce que déjà, ils mangeaient de la spiruline, mais également, ils mangeaient ces petites bestioles. C'est la seule peuplade d'en avoir mangé, alors que vous en trouvez sûrement dans la région, en allant retourner les feuilles. Et ce petit truc a un petit défaut, ça, si vous ne le nourrissez pas bien, ça s'échappe. C'est-à-dire que ça se déplace, et rien au monde ne peut les retenir. C'est-à-dire que si vous les avez mis dans un turboir scellé dans votre frigo, vous avez oublié de les nourrir, vous allez les retrouver à votre plafond en train de chercher leur manger en fuitant par des trous, même un capillaire d'un micron, ça, ils peuvent passer. Car c'est une créature monocellulaire à multinoyaux. C'est magnifique, j'adore ces trucs. Donc ça serait mangeable par exemple, et cultivable, et à condition qu'il soit sage. Hein, ça te dit pas d'essayer?
Bah pourquoi pas, c'est juste qu'il faut savoir si c'est rentable entre guillemets.
C'est pas très bon, c'est surtout ça.
Est-ce que c'est bon aussi? Aussi une autre question, oui.
Ouais, mais bien assaisonné.
Mais il faut savoir comment ça se cultive. Est-ce que c'est faisable de le cultiver?
En tout cas, comme tu en parles, ça a l'air sympathique.
Ah, oui,
on dirait un animal domestique, presque.
Ouais, ça a des beaux yeux. Et d'ailleurs, je vous recommande En passant, je vous recommande un livre très simple de Audrey Dussutour, qui est une des rares spécialistes mondiales de cette bestiole, et qui le livre s'appelle Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander. C'est en plus un très beau panorama de la science actuelle. Je le recommande très chaudement. Elle ne connaît pas exactement l'apport protéinique de la bête dans ce livre-là, mais en cherchant sur Internet, vous devriez y trouver. Par contre, justement, le plaisir dans tout ça, parce que la spiruline, 3 grammes par jour, tu me la vendrais comment? Parce que pour l'instant, les pilules, ça ne m'enchante pas trop. Et l'aspect viande grillée, malheureusement... Ça dépend des points de vue. Il y a l'aspect plaisir entre beaucoup là-dedans, et c'est pour ça que des gens qui accro au steak ont un peu de mal à lâcher quand même.
Oui, c'est pour ça que j'essaye de le faire frais, parce que du coup, c'est plus... C'est tartinable, ça peut se mélanger à une sauce, c'est plus... c'est pas un complément alimentaire, c'est pas un truc qui sent mauvais. Ça peut être considéré comme un vrai aliment et ajouté à un repas.
Et en tant qu'ingrédient, tu as
Plutôt qu'en tant qu'ingrédient, oui.
Mais tu as des réflexions de, justement, je sais pas, moi, la rillette à la spiruline sans viande, je sais pas.
Il y a des recettes ?
J'en suis pas là encore.
Ah oui, des recettes.
Je suis encore en train de rechercher.
Mais bon. Si ça a déjà été consommé de façon traditionnelle, il doit y avoir des recettes traditionnelles, non ?
Eh bien justement, au Tchad, ce qu'ils font, c'est qu'ils la récoltent et ils la font sécher sur le sable en, sous forme de sorte de galette, qui est une galette sèche.
D'accord, et puis ils la mangent nature, en fait.
Oui, c'est ça. Après, peut-être, non, je crois qu'ils la mélangent avec d'autres trucs, mais...
donc c'est un début de recette.
Ouais, c'est vrai. Je vais plus m'enseigner. Ouais.
Non, mais tu reviendras pour la présentation de ton livre, Spiruline dans tous ses états.
Ça, j'en suis pas là. Déjà, j'essaye de la faire produire, c'est déjà de la cultiver.
Alors, il nous reste... Bon, allez, j'avais promis de vous passer le micro. Alors, comme il reste un quart d'heure, on va tenir les promesses. Vous êtes prête ? Et prêt, pardon ? Hein ? On fait circuler les micros. Qui a des questions ? Ah, il y en a plein. Ah non, parce que hier j'avais un truc sur l'impression 3D des organes. Il a fallu les forcer pour poser des questions. Là, on va pas en manquer.
Alors bonjour.
Excusez-moi, je vous vois pas. Vous êtes. Mais bon, je vous vois.
Bonjour. Moi, j'ai une question parce que par rapport effectivement au thème donc, qui était demain tous végétariens. Il y a quand même un problème aujourd'hui avec la façon dont on produit la viande en masse, puisque c'est une industrie qui consomme énormément d'eau, énormément de terre, qui pollue énormément. Donc est-ce que finalement notre régime alimentaire, il n'est pas un petit peu corrélé aussi à la survie juste de l'être humain sur la planète Terre ?
Oui.
Oui.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est dans un questionnement par rapport au régime capitaliste qui utilise énormément les ressources de la planète. Et la production de viande, c'est une très consommateur des ressources de la planète. Si on continue à manger comme on mange aujourd'hui, on va droit dans le mur. Après, il y a aussi la question de comment on traite les animaux qu'on mange. Il y a des recherches récentes qui nous montrent que les animaux ont une sensibilité. Il faut que nous, qui sommes des créatures conscientes, nous ayons conscience de ce que nous faisons à la planète et aux autres créatures vivantes qui nous entourent.
Je recommande de nouveau de la table ronde de demain où on a pas mal de chiffres sur la question. Avec les projections jusqu'à 2050 sur l'alimentation. C'est pas pour rien qu'on a appelé ça soleil vert. Mais là, on aura beaucoup plus de détails techniques sur ce genre d'aspect. D'autres questions ?
Bonsoir. Je suis content d'être venu à cette discussion sur demain tous spirulinariens. Ça limite beaucoup en fait le débat. On a l'impression que pour être végétarien ou végétarienne ou végétalien, végétalienne, il faut forcément consommer du soja en poudre, de la spiruline en paillettes. C'est un peu dommage de laisser cette impression-là. On a utilisé le mot substitut à la viande. On peut parler plutôt d'alternative ou d'autres voies, l'autre voie qui est plutôt la voie habituelle, la voie ancestrale. Les légumineuses, on n'a pas assez parlé des légumineuses comme étant une véritable alternative plus que substitut à la viande. Voilà, c'est vrai que cette discussion-là, elle n'a pas été assez loin, elle n'a pas dit assez de choses. Même pour les quelques 50 minutes qu'on a eues, on n'a pas parlé de l'aspect éthique. Parce qu'on parle du bien-être animal, mais bien-être animal, si la vache elle a eu un petit massage et du Mosa dans les oreilles avant d'être égorgée, c'est pas un bien-être. J'appelle pas ça un bien-être. On n'a pas parlé de l'aspect, effectivement, résolution de la faim dans le monde, ça a été prononcé pendant 15 secondes. Effectivement, si on passe tous à une alimentation. si la majeure partie de la population humaine terrienne passe à une alimentation, pas un régime, à une alimentation, parce que c'est un régime, ça, pour moi, ça veut dire que c'est juste un choix alimentaire pour des raisons de santé ou pour des raisons de ligne et tenir dans le maillot et être sexy. L'été, non, c'est pas une histoire de régime, c'est une histoire de choix alimentaire, c'est un mode de vie, c'est une éthique qui à la fois prend conscience du bien-être des animaux véritablement, et surtout, c'est une éthique qui permet de se dire, ben voilà, on va partager les ressources sur Terre. La majeure partie des terres agricoles sert à nourrir les bêtes. Du coup, si on réoriente, si la majeure partie de la population humaine a une alimentation végétarienne, on arrivera à distribuer les ressources végétales pour toute la population terrienne, et plus personne ne crèvera de faim si on réussit à passer outre le capitalisme.
Je vais être très pessimiste. Je pense que nous, en Europe, on n'a plus le contrôle de cette question. Le contrôle de cette question, c'est les pays où les gens mangent de plus en plus de viande, qui vont l'avoir, tout simplement parce qu'ils sont plus nombreux. Si vous arrivez à expliquer aux Chinois qu'il faut qu'ils mangent moins de viande, vous aurez peut-être quelque chose d'assez équitable dans 50 ans. Je ne parle pas de maintenant. Maintenant, on est encore les plus riches. Mais c'est précisément les nations émergentes qui mangent le plus de viande. Et vous aurez beaucoup, beaucoup de mal à expliquer à un Chinois dont la famille a connu la faim et dont le rêve, c'est d'avoir un mode de vie à l'occidental, qu'il ne pourra pas l'avoir, tout simplement parce que, parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. On peut toujours en parler entre nous, hein, entre personnes éduquées, occidentales, et tout ce que vous voulez, mais le faire comprendre à des millions et des millions de gens qui n'ont pas votre culture, je vous assure que ce ne sera pas du tout évident.
Oui, les statistiques, j'espère qu'on les fera mentir avant qu'on se prenne le mur que vous citiez avec raison. Hein. Franchement, c'est pour ça qu'en introduction, je disais qu'il n'y avait pas vraiment de débat là-dessus. On est en fait, tous les scientifiques, les gens raisonnables sont tous d'accord. Mais là où Alex a raison, c'est que dans les pays émergents, Afrique, Chine, Inde, la tendance, elle est exponentielle sur la demande de viande. Alors, on arrivera à un point où on ne pourra pas la satisfaire et il devrait y avoir, une correction. Mais si on va, en 2050, on suit la demande, 100% des terres cultivables servent à alimenter les animaux, comme je l'ai signalé au début, et c'est impossible, ça on est tout à fait d'accord. L'aspect éthique en plus, bon, c'est vrai qu'on l'abordait un peu court, mais c'est vrai qu'en une heure, le sujet est tel qu'on pourrait passer la soirée dessus, et c'est pour ça qu'il a été plus ou moins scindé en deux séances, où on abordera, je pense que le thème éthique, l'INSERM également, on a conscience et l'étudie. À ma grande, je vous avoue que j'étais un peu surpris en le voyant, mais vous verrez demain, c'est assez intéressant. Parce que j'ai confiance, vous serez tous là. Hein, mais vous avez raison d'intervenir à ce sujet. Mais c'est vrai que là, on ne maîtrise effectivement pas forcément tous les paramètres. Et en être conscient, ça ne réglera pas forcément le problème. Il faut qu'il y ait une prise de conscience mondiale. Quelqu'un a levé la main par là?
Oui, si je peux juste réagir à ce que disait madame. Il est vrai que la demande en viande en ce moment est exponentielle en Chine, etc. Après, il ne faut pas oublier non plus des pays comme l'Inde, qui sont très loin de nous culturellement et dans lesquels vivent autant des millions de végétariens depuis des centaines d'années, parce que justement, chez eux, c'est culturel. Donc voilà, il y a aussi d'autres cultures dans lesquelles ça existe très longtemps, dans lesquelles ça se développe. Et la Chine d'aujourd'hui n'est pas la Chine qui existera dans 50 ans. On voit que les Chinois prennent conscience maintenant des effets de la pollution chez eux, notamment à cause des problèmes de santé, hein, tout simplement. On voit qu'ils sont en train de changer leur rapport à l'automobile, par exemple, à la voiture électrique. On peut aussi se dire qu'ils vont changer leur rapport à la viande, qu'effectivement, pendant quelques années, il va peut-être y avoir une demande ou une consommation excessive, en tout cas, qui va bien augmenter de viande, mais que peut-être dans 10 ans, 15 ans, ça va changer, parce qu'ils évoluent très, très vite. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que parce qu'ils ont une culture très éloignée de la nôtre, ils ne vont pas se tourner peut-être un jour aussi vers le végétarisme ou se dire que bah, la consommation de viande à tout craint n'est pas viable sur la planète.
Qui répond ?
En tout cas, on a une difficulté dans la prescription en tant qu'occidentale à aller expliquer à des peuples qui accèdent à la possibilité de pouvoir se nourrir enfin de façon équilibrée et plus avoir des difficultés pour se nourrir. Nous, on mange à notre faim depuis 50 ou 60 ans. Il y a une difficulté à aller leur expliquer, nous, anciens aussi colonisateurs, maintenant, il faut arrêter de manger comme ça. Il faut que la prise de conscience, elle vienne d'eux.
C'est bien ce que je vous dis. C'est pas à nous d'aller leur expliquer, mais on voit que, enfin, je disais l'exemple des voitures électriques, les Chinois ont pris conscience eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas continuer à augmenter le nombre de voitures et la pollution des gaz à effet de serre, etc. Donc, on peut se dire qu'ils vont suivre la même évolution.
Oui, on peut leur faire confiance.
Alors, juste pour reparler statistiques, si vous prenez 15 ans, c'est déjà la catastrophe.
Non, je vous parle à 50 ans.
Non, 50 ans, si on est tous morts dans 50 ans. Si on fait, on suit la courbe statistique, on est mort. Sur 50 ans, on est mort, on n'est plus là. Sur 15, on est déjà dans une misère noire. Donc, il faut espérer qu'ils prennent conscience dans 5. Ça, c'est mon avis personnel. Alors, en tant que modérateur, je n'aurais peut-être pas le donner, mais... Est-ce qu'on a encore... On a 5 minutes, un petit peu moins, je crois.
Oui, bonsoir. Oui, moi, j'avais une question, en fait, puisque vous parlez des animaux, mais par rapport à la consommation animale, on parle de viande, mais tu sais, toute la vie marine et enfin, tout ce qui a trait à la pêche, en fait, soit en eau douce, en eau salée, ça a quand même un impact important aussi. Donc, peut-être prendre aussi en compte cet aspect-là dans l'alimentation du futur. Déjà, apparemment, les océans ne sont pas en bon état, donc... Alors, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir là-dessus ?
Excusez-moi, le son est assez moyen, donc je n'ai pas vraiment... Tout
c'est moi qui parle mal. Je vais articuler un peu, ça sera peut-être mieux.
En mettant le micro un petit peu plus
loin. D'accord. Je voulais juste me poser la question, parce que quand vous parlez d'alimentation, vous parlez de la viande, mais qu'en est-il en fait de toute la consommation liée à la pêche ? Voilà, puisque c'est quand même un aspect très important. Et...
Qui veut répondre ?
Les mers sont relativement polluées. Les poissons, le nombre de poissons aussi diminue énormément. Donc effectivement, il y a le poisson pourrait être, alors on ne va pas parler de substitut, pourrait être une alternative à la viande. Mais la culture de poissons avec des aliments de synthèse qu'on connaît, par exemple sur le saumon, piqué aux hormones, bon, ça fait très moyennement envie. Et surtout, les mers et la densité de poissons diminuent énormément.
Oui, il y a même des zones mortes sans même du plancton. Donc, oui, comme alternative long terme, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais... Je lisais que si on continue au rythme qu'on fait actuellement de pêche, en 2050, il n'y a plus de poissons.
Oui, mais sans même parler des problèmes liés au changement climatique. On a le temps pour, je regarde, une question, sauf si les deux sont très très courtes. Voilà.
Alors moi je suis végétarienne et j'ai eu une discussion très intéressante avec une amie à moi qui est végétarienne également. Et elle me disait qu'elle... moi je respecte ceux qui mangent de la viande, j'ai pas d'avis là-dessus puisque je suis pas sûre de pas faire de mal non plus en mangeant des légumes. Sachant qu'il a été prouvé scientifiquement qu'apparemment il y aurait un impact digne d'un système nerveux quand il y a un traumatisme en fait sur un végétal. Et donc j'en ai convenu suite à cette conversation que le seul moyen de ne pas avoir d'impact, c'est la solution soleil vert, être des charognards, puisque c'est du recyclage.
Je vous trouve charmante.
Voilà. Mais justement, la question que je me pose, c'est: est-ce que si on devient tous végétariens demain, est-ce qu'il n'y aura pas un impact horrible au niveau planétaire, finalement, puisque ça va engendrer des cultures en masse
Ça serait une question pour les gens de l'INRA, mais je suppose qu'un de vous peut également donner son avis.
Alors, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais si on devient tous végétariens, les terres qu'on utilisait pour faire pousser des céréales pour nourrir les animaux, on les utilisera pour nourrir les humains. Donc on ne devrait pas exploser le budget... en termes de terres agricoles, on devrait même en gagner.
Après, on a les problèmes d'agriculture intensive quand même.
Oui, bah après, oui, on, si on utilise des pesticides pour faire pousser des patates, et ben on tue des sauterelles. Donc,
J'ai oublié ça aussi. Okay. L'érosion des sols. Non, mais c'est une question assez complexe. Alors, je pense que c'est une question qui est plus adaptée à nos spécialistes de demain, de l'INRA, qui sont justement plus orientés agricoles. Pour la question soleil vert, rassurez-vous, un Japonais a réussi à produire un steak à partir de boue d'épuration. Donc on a peut-être moyen de faire quelque chose.
C'est parfait.
Ah, je savais que ça vous plairait. Les techniciens nous autorisent une question de plus ou on est tard? On a un oui. Allez, dernière question. Dernière, devant.
Du coup, pour finir, est-ce que avec les compléments alimentaires et des légumes, on pourrait arrêter notre consommation de viande totalement et arriver à une alimentation exclusivement de légumes et plus les compléments alimentaires, donc du coup à une culture de légumes qui serait plus écologique.
Quand vous dites légumes, vous parlez que légumes verts ou on est plus général dans le végétal? C'est juste pour préciser la question.
Non, tous les légumes, tous.
D'accord,
les
tout ce qui est végétaux. Ok.
Du coup, si on s'organise bien, normalement, il n'y a même pas besoin de compléments alimentaires. Si on prend les protéines, on les pois, on prend dans le soja, on prend le, je sais pas quel autre. Enfin, on fait un bon travail de d'équilibre. Il n'y a même pas besoin de compléments alimentaires normalement, et on peut tout manger en plantes.
Avant de vous quitter, justement, faut savoir que quand on mange des haricots, l'organisme a un peu de mal à assimiler. On n'est pas super adapté pour assimiler ce genre de choses. Lentilles, c'est mieux, mais les haricots, c'est tellement bon. Alors du coup, il y a quand même des méthodes. C'est pareil pour le riz. Le riz, l'organisme a une tendance à produire plus de déchets qu'à récupérer des protéines en le mangeant. Donc il y a certaines peuplades qui utilisent quelque chose qui est très facile à faire pour améliorer le rapport nutritif. C'est de faire des lavages ou des trempages mélangés à du levain. Donc je me suis dit, tiens, c'est étonnant, vu que j'ai du levain dans mon frigo, j'essaye. Je me suis retrouvé à voir des haricots qui ont commencé à mousser, un peu étonnant, qui ont perdu leur couleur rouge, j'aime bien les haricots rouges, mais ça devenait beaucoup plus nutritif, c'est-à-dire la quantité que j'ai mis dans les assiettes était ridicule, ça nous a calé et on n'a pas eu faim le lendemain, c'était impressionnant. Pour le riz, même chose, ça a tendance à être pas très agréable parce que le riz devient translucide et cassant, mais ça nourrit beaucoup plus. Donc il y a peut-être aussi des méthodes qui peuvent être d'ailleurs peut-être... on va parler d'OGM, hein, mais il y a peut-être des trucs plus scientifiques que mettre du levain pour certains autres ingrédients. Il y a peut-être moyen aussi de rendre les aliments qu'on mange plus efficaces. Et ça, on a peut-être dû en parler. Mince. Mais ça vous permet de méditer pour demain et m'apporter des super questions à la table ronde de 19h30. En tout cas, merci d'être venu. C'était très sympa.